Est-ce que tu peux nous dire, petit, dans quel milieu culturel t'as baigné? On parle de SF, est-ce que tu en as lu un petit peu?
Quand j'étais petit, en fait, le grand classique, j'ai bouffé du super-héros, hein, des Strange, enfin des Nova, je me souviens plus de, je crois qu'il y avait un troisième format, celui avec le truc de mi-tonde dans. Bon voilà, ça j'en ai bouffé beaucoup, mais sinon surtout mon père m'a lui ne jurait que par Asimov et Van Vogt. Alors sur Van Vogt, je l'ai pas trop suivi, d'autant qu'au lycée on nous a fait lire le Nona et moi j'ai pas trop accroché. Par contre Asimov, bon, je n'ai lu que les robots, mais j'ai tout lu sur les robots et j'ai vraiment adoré quoi. Et j'ai lu beaucoup de nouvelles donc de science-fiction. J'ai été marqué par aussi par quelques romans de Sturgeon, de Simak. Faudrait que j'en trouve d'autres, mais bon, en gros toute la SF de l'âge d'or, bon, K-Dick, j'ai lu des romans et j'ai pas assez lu de nouvelles. Voilà quoi, bon, la SF anglo-saxonne de l'âge d'or, ça j'en ai beaucoup mangé. J'ai lu, il y a eu une espèce de creux, et puis j'ai lu, comment dire, j'ai lu de l'heroic fantasy de base, mais vraiment de base au lycée, et ça m'a permis de redécouvrir finalement la bonne littérature derrière quand j'ai voulu m'élever en niveau. Curieusement, l'heroic fantasy m'a aussi forcé à m'intéresser à l'histoire. Et je me suis découvert donc une passion pour l'histoire, l'histoire médiévale, les sciences aussi. Et puis en plus, j'ai fait une formation scientifique. Et l'imaginaire en général, quoi. Et je pense que tout ça vient de là quand même. La littérature, la SF, etc. Mais aussi, alors bien sûr, évidemment, le cinéma. Bon, j'en ai vu beaucoup. Moi, mon père, les premiers dessins animés qu'il m'a montrés, c'était La planète sauvage de Topor. Et puis. Topor et Lalou, et puis il y en avait un autre, les Maîtres du Temps aussi. Donc je comprenais rien, mais je trouvais ça assez fascinant en fait. Maintenant, quand je les revois aujourd'hui, je me dis bon, ça n'a pas toujours super bien vieilli, mais ça reste quand même très intriguant. Et surtout, je montrerai pas ça à mon gosse moi, mais bon, peut-être, je sais pas, je suis peut-être un peu plus vieux jeu que mon père à l'époque, je sais pas. Mais en tout cas, bon, c'était ça, ça m'a vraiment marqué. J'ai vu ça avant de voir des Disney, donc voilà, j'ai quand même baigné là-dedans. Et bon, c'est pas par hasard si je me suis mis au jeu de rôle aussi. Enfin voilà, donc je suis pas là pour rien, quoi. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment de raconter des histoires?
Je pense qu'au début, ça a dû être le jeu de rôle, c'est-à-dire en vivre, et puis en écrire en tant que maître du jeu, même si j'étais un très mauvais maître du jeu parce que j'étais très feignant. Mais j'avais un copain qui me donnait envie de m'améliorer parce que lui était excellent, il préparait très très bien ses campagnes. C'était du jeu de rôle de bon niveau, même si ça peut surprendre, ça existe. Et donc ça déjà, ça m'avait titillé. Mais en fait, j'avais jamais pensé au fait que je pouvais faire un métier de l'écriture. Et c'est arrivé. Grâce à ces rencontres dans le jeu de rôle, en fait, c'est le frère du maître du jeu qui lui est devenu dessinateur et qui m'a dit, voilà, moi je vais vivre de mon dessin. J'aime bien certains trucs que tu avais écrits. Si tu pouvais m'écrire une histoire, je suis en cheville avec un petit éditeur. C'était petit à petit à l'époque. Je vais sans doute faire un grand album pour lui. J'aimerais bien qu'on fasse notre histoire, nous deux. Et je finissais mes études et moi j'étais un peu désœuvré, déconcerté par ce que je découvrais, parce que j'étais venu pour construire des robots et on découvrait les engrenages, des choses comme ça. Et en fait ça me saoulait. Et, bon, je découvrais la réalité du métier. Et à l'époque en tout cas, ça me plaisait pas. Bon, maintenant, je suis un peu revenu sur mon point de vue. Je pense qu'ingénieur, ça m'était intéressant, mais à l'époque, ce que je voyais me plaisait pas du tout. Et donc, je me suis dit, oui, on va tenter. Et puis, de fil en aiguille, avec petit à petit, j'ai fait des collectifs. Et puis, ils m'ont donné l'opportunité de faire mes premiers albums grand format. Et c'est venu comme ça. Ça a commencé comme ça.
Tu parlais des super-héros tout à l'heure et je voulais parler de la BD Idole. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment elle est née, tout du moins, comment est-ce que tu l'as imaginée?
Idole, c'est quand je faisais un stage en fin d'études et je me suis dit, je crois que j'avais entendu parler de. Je commençais déjà à faire de la BD, je me suis dit, tiens, ils vont faire Hulk en film. Et qu'est-ce que je ferais moi si je faisais Hulk en film? Et c'est que ça a commencé comme ça en fait, avec le personnage de qui est devenu Karim après. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Hulk? c'est quoi les thèmes qui sont développés dans Hulk, donc le dédoublement de personnalité, le bien, le mal, ces choses-là. Et après, je commençais aussi à lire un peu sur l'écriture du scénario, les conflits qu'il y avait, bon, ça c'est un peu technique, mais entre l'intrigue et les personnages. Et évidemment, comme j'étais jeune, je voulais faire quelque chose qui allait tout défoncer, puis revenir en même temps à quelque chose d'exigeant, donc plutôt la psychologie des personnages. Et je me suis retrouvé avec cette BD dont je suis vraiment très fier, même si je la trouve maintenant hyper bancale et bourrée de défauts, où en fait j'ai laissé un peu j'ai créé des personnages et je les ai laissés un peu vivre, hein, voilà, en leur donnant une espèce de fil rouge, mais qui est très très ténu. Et voilà, je me suis retrouvé avec je voulais des super-héros complètement foireux, en fait. Donc à la limite, c'est peut-être Karim avec une espèce de Hulk à la française qui est le plus formaté, quoi, le plus usuel, parce que les autres, il y en a un, donc qui est Louis, qui a la peau noire, qui absorbe tout type d'ondes et de radiations, mais qui a un essai raté d'homme invisible. Il y a un autre gosse qui est un essai raté d'homme invisible, qui lui, si par contre il est juste transparent, et s'il est soumis au soleil, il crève parce à cause de l'irradiation de ses organes. Bon, voilà, et ça n'était que ça, et je les ai laissés vivre. Et c'est une BD qui est frustrante parce que je suis très attaché et en même temps je la trouve un peu bancale. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est venu comme ça. C'est cette envie de faire Hulk à la base. Quand j'ai entendu parler d'Iron Man il y a un peu moins longtemps, pareil, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais avec Iron Man? Mais bon, je me suis arrêté là. Mais j'ai envie d'y revenir au super-héros et j'ai peut-être un autre angle d'attaque qui m'intéresse. C'est pas pour tout de suite, mais ouais, j'y reviendrai. Ça oui, les super-héros, c'est un thème qui m'accroche toujours, quoi.
Pourquoi est-ce que ça t'accroche? Parce que ce sont des personnages particuliers dans des situations particulières?
Je pense que c'est parce que ce sont des figures rassurantes, déjà à la base, hein, et puis rassurantes, et puis aussi parce que ce sont des personnages qui donne envie d'être fort. C'est très con, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est des figures exemplaires, en fait. On se dit, dans la vie, on aimerait être comme ça. C'est vraiment très con, mais je pense que c'est ces deux choses-là qui m'ont fait tilter. Et encore aujourd'hui, en fait, ça me taraude parce que on se fout de moi en ce moment, parce que je me suis mis à la musculation, mais je me suis clairement mis à la musculation à cause de cet idéal masculin-là que j'ai toujours en tête, qui est les super-héros. C'est le seul type de mec qui est capable de porter un truc moulant sans être ridicule. Bon, enfin, tout est relatif, évidemment, mais quand même. Et c'est ça. C'est parce qu'ils sont rassurants et exemplaires et qu'on a envie de s'identifier à eux et de mener notre vie comme ils le font. Je sais que ça paraît basique, mais voilà, quoi. Moi, je me suis déjà fait taper dessus dans le métro, quoi, et j'ai réagi comme une lopette, et du coup, ça m'a forcé à me questionner aussi, quoi. Enfin, voilà, je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à notre manière de résister face aux agressions de l'extérieur, quel que soit le type, hein, les problèmes au boulot, est-ce qu'on baisse notre roc ou est-ce qu'on gueule quitte à perdre son travail, c'est ce genre de choses. Hein. Ils soulèvent ces questions-là, même s'ils sont des figures basiques, ils soulèvent quand même des problèmes intéressants par rapport à ça.
Voilà. Et alors dans Idol, il y a tout un contexte avec une France futuriste un tout petit peu différente, est-ce que tu peux nous en parler?
Tout à fait. Bah, en fait, ils étaient la première fois que j'ai vu justement les super-héros comme autre chose que des figures rassurantes, c'était avec The Dark Knight de Frank Miller, que depuis je vois d'ailleurs comme une figure qui est peut-être pas aussi gauchiste que je croyais, même plutôt tout l'inverse. Mais à l'époque, la lecture que j'ai faite de The Dark Knight, je connaissais pas le reste de son œuvre, et c'était celle d'un super-héros qui peut vite virer au vigilant, à l'extrême droite et tout. Lui, dans mon esprit, avait l'air d'en faire une critique. Bon, j'avais mal compris le bouquin a priori, mais je trouvais ça très intéressant, quoi. Voilà, le super-héros comme super-nazi, ça me travaillait aussi. Et effectivement, c'est le c'était une espèce de conjoncture de faits. Il y avait la lecture de The Dark Knight était encore fraîche, le fait de vouloir faire un truc de super-héros, Et puis le contexte politique de l'époque, je crois qu'on était, c'est en 2002 que Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Et ça, tout ça, ça m'avait vraiment marqué. Et je m'étais dit, si je dois travailler sur le thème des super-héros, je vais en faire le contraire de ce que j'aimais chez eux, parce que je trouve ça plus intéressant. Donc, non pas des figures rassurantes, mais ou des victimes, ou au contraire des fachos, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé cet angle d'attaque-là dans Idole. Oui.
Alors, autre projet de science-fiction, mais qui s'inscrit dans une espèce de série en one-shot, ce sont les 7 prisonniers. Puisque là, du coup, on est dans les étoiles. Alors, un peu même principe, comment est-ce qu'est née l'histoire? Comment est-ce que tu voyais les choses, toi?
Alors, j'ai voyé différemment de ce qu'est l'album, puisque je commençais à le sous-entendre, et puis je peux le dire très franchement, même si c'est pas... C'est un peu facile maintenant que le bouquin s'est vendu, quoi. Mais bon, c'est un bouquin dont je suis pas très content. En tout cas, au niveau du script, c'est un livre qui m'a échappé. Là, j'accuse personne. C'est juste que voilà, ça arrive parfois. On est content des idées de départ, on développe un bouquin, et puis au fur et à mesure, les ennuis arrivent et on perd son recul et on se dit non, c'est très bien, et on découvre un peu trop tard qu'en fait non, c'est pas bien du tout. Donc à la base, on discutait simplement avec David de ce que je pouvais raconter j'avais dans le tiroir, j'avais deux idées en fait. D'abord l'idée de faire depuis longtemps une prison sur la Lune où des gens découvraient une grotte préhistorique, voilà, mais vraiment préhistorique. Je voulais pas que ça soit un site extraterrestre, je voulais que ça soit humain, avec des fresques et tout ça. Et j'avais pas d'idée de réponse à ça, en fait, à la base. C'était juste une idée qui traînait comme ça. Et je me disais, là, ça peut être l'évasion de cette prison-là, mais il faut trouver un lien avec la grotte en question. Et à côté de ça, j'avais un autre thème, un thème que je revisiterais très clairement, sous une autre manière, c'était celui de la chrysalide humaine. J'avais développé de manière complètement différente, mais je me suis aperçu que cette idée-là était complémentaire avec l'idée de départ de la grotte préhistorique, que je pouvais mélanger les deux choses et les expliquer l'une l'autre. Donc c'est né comme ça, en fait. J'ai parlé de ces deux idées-là à David en disant, voilà, je crois que je commence à avoir des liens entre ces deux thèmes-là. Il me dit, ouais, super. C'est lui qui m'a juste dit, cette prison lunaire, il faut que les prisonniers soient libres. C'est-à-dire qu'ils sont complètement délaissés sur la Lune, ils se démerdent entre eux. Et c'était une très bonne idée, même si du coup ça commençait à devenir vraiment New York 97 sur la Lune, en fait, quoi. Donc là, ça tendait vers le classique. Alors bon, ce qui est marrant, c'est que justement quand on l'a vendu entre guillemets, les réactions c'était des prisonniers sur la Lune à un moment donné, génial. Une grotte préhistorique, complètement con. Et alors que pour moi, c'était justement le truc intéressant à développer. Donc voilà, donc j'étais très content des idées de départ, puis j'étais content de mes conneries, j'avais beaucoup développé l'écologie, les règles du milieu, etc. et tout. J'étais très content de l'entrée dans les bulles. Toutes ces idées-là, quoi. Et bon, au final, je pense que c'est un bouquin, j'ai mal maîtrisé le format, et puis ça a merdouillé, quoi, voilà. Mais je reste très heureux des idées de départ, puis je l'ai fait, c'était une envie sincère, pas seulement une commande, je me suis vraiment impliqué en tant qu'auteur, j'étais heureux de le faire, et j'espère pouvoir retravailler certaines idées dans une autre direction plus tard.
Alors justement, tu parlais de format, c'est difficile quand on fait des cycles de faire un one shot en termes de scénario?
En fait, ça l'était particulièrement à ce moment-là, parce que j'ai eu une période un peu difficile au niveau de l'écriture où j'essayais de faire des choses très compliquées, très denses. La licorne, on a souffert aussi sur le premier tome. Il y a d'autres bouquins à la même époque qui sont pas parus parce que justement je faisais des choses beaucoup trop compliquées. Ça a été un moment difficile. Et en plus, disons que le format bien particulier est venu se rajouter à ça. Donc oui, c'est quand même une difficulté, parce que surtout, en plus, quand on a un groupe de 7 personnages, si on veut un peu fouiller leur personnalité, forcément, ça se fait au détriment de l'intrigue. Et là, vraiment, on voit qu'il y a, comment dire, un... Les deux sont complémentaires, évidemment, mais on a quand même un problème de place, surtout en bande dessinée, qui est un médium donc, visuel, donc très immersif, quand c'est réussi visuellement, mais par contre, avec un débit d'information qui est quand même beaucoup plus limité qu'un livre, voilà, tout bêtement. Et puis en plus, bon, c'est pas la même chose, les gens sont prêts à consacrer des heures à la lecture d'un bouquin, alors qu'une BD, s'ils doivent la reprendre à plusieurs reprises, déjà ça c'est curieux, mais ça leur pose un problème, on le sent chez les lecteurs. Donc on pouvait pas fouiller la personnalité des personnages de la même façon, il fallait aller vite dans l'intrigue. Voilà, c'était, j'ai pas été très à l'aise avec ça, et pourtant là, je vais encore faire d'autres one shot, mais je pense que j'ai pu trouver mes marques quand même, quoi. Mais aussi par le biais de mon travail sur les 46, quoi. Voilà, j'apprends mon métier, quoi. Voilà.
Alors, tu parlais d'une passion pour l'histoire tout à l'heure. Elle se voit particulièrement dans La Licorne. Il y a eu beaucoup de documentation sur cette série.
Il y a eu, en fait, tout l'aspect visuel, la reconstitution de la Renaissance. Moi, je voulais juste donner une espèce de direction artistique. Je voulais que le dessinateur ait la même envie que moi. Donc, j'ai dit La Reine Margot. C'est une Renaissance noire, crasse et tout. C'est vraiment Anthony qui s'est documenté au niveau des costumes et au niveau des maisons, de l'architecture et tout ça. Moi, j'avais une vague idée, je trouvais ça joli et c'était super. Par contre, sur l'histoire de la médecine, ça, je me suis énormément documenté, j'ai beaucoup travaillé. J'ai assisté à des conférences aussi. Je me suis bouffé l'histoire de la médecine depuis l'Antiquité. Sachant que ça m'a, il y en a 2% quoi qui m'ont servi derrière, d'où l'envie d'ailleurs de faire des pages de garde bien nourries en documentation parce que je trouvais ça vraiment dommage. Et puis il y a eu aussi un travail de recherche sur la licorne, sur les tapisseries. Alors l'histoire des tapisseries en question, l'histoire de la licorne, la vision qu'on en avait à travers les âges. Tout le monde la voit comme un joli cheval blanc qui se balade et qu'on peut caresser si on est gentil. Alors qu'en fait, au Moyen-Âge, bon, alors déjà, elle avait l'aspect d'une espèce de chevreau avec une corne démesurée. Et en plus, c'était considéré comme un animal redoutable. Vraiment, on en avait la trouille. Même s'il y avait une symbolique christique longtemps qui a été attachée, ça restait quand même un animal assez suffisamment terrifiant pour d'ailleurs se battre contre un lion et pouvoir gagner, quoi. On les associait tous les deux, sachant que la licorne, en fait, ça on le sait pas non plus, mais était plutôt un prédateur pour le lion d'une certaine manière. Donc j'ai fait un gros travail de recherche là-dessus. C'est à peu près tout, mais en fait, ça m'a demandé des mois et des mois, quoi. Voilà. Parce que les bouquins sur l'histoire de la médecine, c'était des pavés, et j'en ai pas mangé qu'un seul. Mais c'était très intéressant. Au bout de quelques mois, forcément, on est frustré, on a envie de passer à l'écriture, quoi. Voilà. Mais ouais.
Et alors, pourquoi spécifiquement la Renaissance ?
Alors, c'était en fait... Je voulais faire, d'un côté, une histoire avec un médecin, et je savais que ça serait historique, et en plus je voulais y mêler du fantastique, et il s'est avéré que j'avais très envie de faire quelque chose sur la licorne, et notamment que ça soit basé autour de la tapisserie de la licorne. Ça, c'était une idée. Or, la tapisserie de la licorne est liée à la Renaissance, en tout cas au bas Moyen-Âge. Et puis en face de ça, la période la plus intéressante de l'histoire de la médecine, c'est la Renaissance aussi, avec des figures comme Ambroise Paré. Quand j'ai découvert que Rabelais ou Notre-Dame étaient des médecins aussi, je me suis dit, bon, c'est absolument génial, quoi. Il y a vraiment des trucs à faire. Et en plus, Ambroise Paré, qui est une figure incroyable, quoi, s'était intéressé à la corne de licorne et disait, c'est vraiment un attrape-nigo, c'est une arnaque pas possible, les apothicaires font du fric avec ça, alors que ça sert à rien, c'est lamentable. Et je me suis dit, bon, bah voilà, déjà, première convergence. Après, il y avait tout un tas d'autres convergences qui sont développées dans la série, que je voyais s'opérer. Et je me suis dit, bon, voilà, il y a un mélange qui est en train de prendre. Même si ce n'était pas forcément évident pour les lecteurs du premier tome, moi, je pense que ça va devenir de plus en plus cohérent. Ça le devient, à mon avis, dans le tome 2 et 3. Ça va le devenir totalement dans le dernier. J'espère. J'espère que les lecteurs le comprendront comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ce mélange d'idées-là, mais d'abord l'envie de faire une histoire de médecin, parce que j'en voyais pas beaucoup. Et la période la plus intéressante, c'était la Renaissance.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il y a l'aventure, et à la fois il y a une partie un peu recherche, où les personnages cherchent eux-mêmes, quoi.
Ah mais tout à fait. Ça, j'aime bien fonctionner, en fait, sur le mode de l'enquête, quoi. C'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus ludique. C'est interactif, quoi. Le lecteur se dit, qu'est-ce qu'il va découvrir derrière, il cherche avec lui. Alors, c'est pas vraiment présenté comme une enquête, parce que d'habitude, on balance des éléments et puis ensuite, on les reconstitue comme un puzzle à la fin. Mais je pense que oui, c'est vraiment ça, c'est le mode de narration le plus intéressant quand même, pour vraiment s'identifier au personnage. Surtout, là, la psychologie des personnages est quand même, elle souffre un petit peu et elle est un peu plus développée, bon, légèrement plus dans le tome 3, elle le sera un peu mieux dans le tome 4. Je me rattrape un peu, on va dire. Mais l'intrigue était très importante et du coup, il fallait forcément opérer sur ce mode-là pour qu'elle soit plus prenante, quoi. C'est presque naturel pour moi. J'aime beaucoup ce que fait. Les deux premiers films de Shyamalan et Sixième Sens et puis surtout Incassable, que je trouve pour moi c'est un chef-d'œuvre. On parlait de super-héros, c'est son meilleur film. Ça, et j'ai beaucoup aimé les premiers Harry Potter aussi pour ça, c'est-à-dire voir des gens qui, alors surtout Harry Potter, quoi, qui prennent un monde totalement imaginaire et qui le décrivent sur le mode de l'enquête. Voilà, ça je trouve ça génial. C'est moins évident dans le Sixième Sens et dans Incassable, mais il y a aussi une recherche de la vérité dedans, surtout dans Incassable. Et ça c'est super, quoi. C'est comme ça que c'est le plus intéressant.
Et justement, sur une série au long cours, comme ça, où il y a un album par an, t'as déjà toute l'intrigue de fait.
En fait, je découpe pas les quatre albums, hein. En plus, c'était prévu en trois au départ. Mais par contre, j'ai une trame, et puis j'ai les grosses lignes de la fin, les éléments importants de la fin. Simplement, je découpe pas parce que je sais pas si la série continue ou pas derrière. Ça, c'est le merveilleux monde de l'édition. Et puis surtout, je découpe pas parce que j'aime me laisser une marge de manœuvre. Et en l'occurrence, j'ai respecté quelques grandes lignes de la fin pour l'écriture du tome 4, mais j'en ai changé aussi d'autres. Et je suis bien plus heureux de ce que je suis en train de découper là maintenant pour le tome 4 que de ce que j'avais conçu bien avant, quoi. Ça me paraît beaucoup plus cohérent, plus intéressant. Donc, mais oui, pour moi, c'est impossible de faire autrement que d'avoir une trame, une histoire avec une fin. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est la fin. Je trouve consternant les gens qui rallongent au fur et à mesure leur truc parce qu'en fait ils n'ont pas de faim ou qu'ils s'en foutent. Ça me consterne. Et puis il y a aussi le respect du lecteur, quoi. La BD, ça coûte cher, déjà en plus ça se lit vite, faut être honnête, hein. Si en plus la fin est torchée, quoi, enfin c'est facile d'avoir une idée de départ et puis de faire monter la sauce et puis de voir le soufflet qui s'effondre à la fin. Voilà, j'ai pas d'estime pour les gens qui se cassent pas le cul à essayer de trouver une bonne fin. Je sais pas si la mienne marchera, mais ce que je peux vraiment jurer sur la tête de tout le monde, mes enfants et tous les autres, c'est que je me suis vraiment creusé pour faire une bonne fin, et ça depuis le début, quoi.
Et alors, quelle est l'importance du dessinateur? Parce que là, on a vu plusieurs types d'albums avec des dessinateurs différents. Ils ont leur mot à dire dans l'intrigue ou tu t'adaptes par rapport à leur style?
J'arrive sur des projets comme La Licorne et d'autres. Moi, pour l'instant, j'ai jamais encore écrit. J'ai écrit pour des commandes, mais plutôt d'éditeurs, en fait. Et on trouvait le dessinateur qui venait aussi pour une commande d'une certaine manière. Même si je m'y impliquais en tant qu'auteur, j'avais quand même une espèce de cahier des charges. Mais sur 7, c'était un cahier des charges très libre. Bon, il y a les adaptations aussi, mais voilà. Ou alors, j'écris pour moi d'abord, et ensuite j'essaie de trouver non pas un dessinateur qui va obéir, parce que ça n'existe pas, j'essaie de trouver un dessinateur qui partage les mêmes envies que moi, voilà. Et les mêmes envies, les mêmes goûts pour ces univers-là, pour ces mélanges-là, ces cocktails-là, sur la licorne, donc la noirceur, l'histoire des sciences, le fantastique, et puis aussi les mêmes goûts en matière de découpage, de direction artistique, c'est vraiment très important, de mise en scène. Moi, avant, je détaillais énormément mes découpages, et il y a certains dessinateurs qui aiment ça, d'autres qui se sentent étouffés là-dedans, et qui, en fait, ont des idées qui sont aussi bonnes que les miennes, voire souvent meilleures. Donc moi, je peux avoir certaines intentions bien précises sur certaines séquences, mais sur le reste, je préfère les laisser libres et dire, bon, en gros, il y a 8 cases, dans telle et telle case, il se passe ça, il dit ça, je veux que mes intentions, les informations, les émotions soient respectées, et pour les choix de point de vue, la place, la forme des cases, la mise en page... Tu te débrouilles, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Et de toute façon, si c'est quelqu'un avec qui on a vraiment des affinités profondes, ça se passera très bien. C'est comme ça que ça marche avec Anthony. Moi, quand j'ouvre une page, je vois ce que j'avais en tête, alors que je lui ai dit, j'ai juste numéro télécast, mais à aucun moment je lui ai dit là faut un gros plan, là faut un plan américain, là il y a machin à gauche et puis truc à droite. Jamais je fais ça, quoi. Ou je peux faire ça, mais vraiment pour lui faciliter la vie dans un dialogue, pour que ça tourne bien, mais c'est tout, quoi. En gros c'est lui le metteur en scène et je suis juste un peu le producteur exécutif et scénariste qui arrive derrière et qui parfois je me retrouve pas dedans, j'ai des problèmes, mais globalement je dis ouais, super, quoi. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et après, bon, ça c'est sur la collaboration. Après, au niveau par exemple de l'impact qu'on a auprès du public, il est évident que le dessin est l'élément le plus important, le plus essentiel. Et sans quelqu'un comme Anthony, quoi, la BD est pas bonne. Et puis bon, ça marche pas derrière, quoi. C'est pas une garantie de succès, mais enfin c'est quand même un véritable atout, quoi. Je sais très bien à qui je dois le succès de la licorne. Je dois d'abord à Anthony, quoi. Et puis bon, je dois peut-être aussi à l'univers qui est porté par Anthony. Donc cet univers vient de moi, mais il serait pas séduisant s'il n'était pas porté par le dessin d'Anthony, évidemment. Donc voilà, c'est tout ça, quoi, l'importance du dessinateur.
Parlons du Mister Nemo, qui est le dernier album que je voulais aborder. Même chose, ça, pareil, encore de l'histoire, mais plutôt Guerre de Sécession.
Alors, au début, la Guerre de Sécession est vraiment une espèce de point d'ancrage au départ. Et puis, c'est la nécessité de respecter l'histoire de Jules Verne. En tout cas, au début, parce que c'est vrai qu'après, je prends énormément de liberté avec. Là, vraiment, alors c'est quelque chose de complètement différent. D'abord, bon, donc c'est un exercice d'adaptation. Mais ça reste quand même une vraie BD d'auteur, parce que j'ai beaucoup aimé l'imaginaire de Jules Verne. J'ai aimé les idées qu'il avait. Et puis, bon, j'adore le personnage de Nemo. Mais j'ai en même temps été très, très, très frustré par le roman, par la dramaturgie du roman, l'accumulation d'événements et de coïncidences incroyables avec une fin, mais qui est juste à tomber par terre, tellement c'est énorme. Et franchement, je pense que y a beaucoup de gens qui connaissent l'île mystérieuse à cause du capitaine Nemo, qui savent en gros ce qui se passe, mais qui n'ont pas lu le roman. Si j'avais fait une adaptation fidèle, on m'aurait renvoyé le bouquin en pleine tronche. Ouais, j'en suis persuadé. Donc là, c'était vraiment pas l'envie de faire un mélange d'histoire et d'histoire des sciences. C'était vraiment l'envie de jouer avec les joujoux de Jules Verne, en fait, notamment le capitaine Nemo, que je développe beaucoup plus, parce que ce qu'apporte Jules Verne sur le personnage est extrêmement frustrant. En gros, on torche son identité et son histoire en une demi-page dans le roman, alors que moi je voulais savoir avec qui il avait construit ce sous-marin, pourquoi, qu'est-ce qui lui était vraiment arrivé. L'autre liberté, c'est la dramaturgie et les personnages principaux. Moi, j'ai voulu prendre une bouffée. Je fais beaucoup de choses très noires, très riches, très denses. Là, j'avais envie de me marrer. J'avais envie de me marrer, alors pas avec le personnage de Nemo qui est très noir, mais j'avais envie d'avoir des personnages attachants et rigolos. Donc c'est pour ça que j'ai conçu ces personnages-là comme ça. Ils sont, moi je trouve, assez chiants dans le roman de Jules Verne. C'est des parangons de vertu. Ils se ressemblent un peu tous. Ils n'ont pas tous les mêmes compétences, mais ils ont un peu tous le même caractère et tout. Bon, il y a juste Pencroff qui est un peu plus bourru que les autres et Nab qui est un peu plus con que les autres. Il y a, mine de rien, une légère forme de racisme, on peut le dire, dans le roman, qui me gênait aussi énormément. Et moi, je voulais faire vraiment des personnages avec des caractères différents. J'ai voulu me marrer avec ça. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement différent, qui ne vise pas le même public que La Licorne. Je pense même d'ailleurs que c'était peut-être une erreur d'avoir mis une étiquette par l'auteur de La Licorne dessus. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus grand public que j'espère intéresser la jeunesse, hein, clairement, avec ce bouquin-là aussi, bah, pas les adultes, mais voilà, c'est une envie d'auteur avec les joujoux d'un autre, en fait. Le Mystère Nemo, on peut dire ça comme ça. Et les gens qui aiment bien le Capitaine Nemo, j'espère qu'ils seront contents de ce que je fais avec lui. Et les gens qui ont lu le roman, j'espère qu'ils seront contents de ce que je fais avec l'histoire du roman. Moi, je trouve qu'il fallait y amener une cohérence qui était absente du roman. D'autant qu'en plus, là, je ne peux pas dire pourquoi, mais ils ne sont pas là par hasard. Alors, ça fait partie des surprises de savoir comment ils ont été amenés là alors qu'ils étaient en ballon. Et l'autre idée, oui, c'est de vraiment bien justifier leur présence et la présence de Nemo sur l'île, et en quoi ça nous sert de savoir l'histoire de Nemo, parce que ça aura un rôle aussi dans la série.
Quels sont un peu tes projets? Qu'est-ce qui va venir dans les prochains mois?
Alors, en mai, il y a un projet dont j'espère, j'attends beaucoup, et j'espère que les lecteurs seront au rendez-vous, comme on dit, qui s'appelle Trois Souhaits, qui est mon envie de travailler sur l'univers des Mille et Une Nuits. Donc je trouvais ça un petit peu ringard et en même temps très enthousiasmant, les Mille et Une Nuits, quoi, ça m'avait un peu bercé. Donc j'ai voulu faire quelque chose de plus noir, tout en jouant vraiment avec les... pas faire comme Prince of Persia qui avait juste pris l'ambiance arabisante et qui était quand même très réussi, hein, mais vraiment reprendre les éléments de cette mythologie là, donc c'est-à-dire les génies en fait, les prisonniers d'une lampe avec des pouvoirs. Donc en fait Trois Souhaits, bah, c'est l'histoire d'un humain, d'un Hashishin en fait au temps des croisades, qui va se sacrifier pour sa cause et puis qui va mourir comme un con, hein, on peut le dire très clairement, parce qu'il se jetait du haut de tour pour impressionner les autorités de l'époque, quoi. Et en fait, au lieu de crever et d'aller au paradis, bah, il se retrouve prisonnier d'une lampe et il est transformé en génie. Et il a quelques pouvoirs, mais surtout beaucoup de limites. Et son nouveau maître, en fait, va lui dire, c'est simple, hein, t'as 3 missions à exécuter. À chaque fois, t'auras une journée pour le faire. Bon, t'as quelques capacités. Si t'en foires une seule, s'il y en a une seule que t'as pas accomplie avant la fin du temps imparti, tu resteras prisonnier de la lampe pour l'éternité, quoi. Donc, en 3 tomes, son but, à chaque fois, va être d'essayer de réussir ses missions, mais aussi, bien sûr, de tricher, de doubler le maître. Et puis, bon, en fait, bon, il va y avoir plein de choses, parce que le maître va pas toujours être le même. Il y a aussi des gens qui se volent la lampe, forcément. Donc, voilà, et du coup, il va découvrir qu'au-delà du monde réel, il y a tout un monde fantastique qui part en parallèle, quoi, qui est vraiment inséré dans notre monde, mais qui est caché. Donc, on va très vite découvrir, justement, dans le premier tome, bah, la gueule de Jérusalem version Mille et Une Nuits, quoi. Et je bosse avec Paolo Martinello, qui est un dessinateur italien qui est super fort. Et moi, je le trouve aussi bon qu'Anthony Jean. J'espère que les gens accrocheront. Voilà. C'est assez noir aussi. Et là, on va dire qu'autant la licorne traitait du renouvellement des croyances d'une certaine manière, là on est plutôt sur la liberté et le pouvoir et pourquoi on veut à tout prix le pouvoir, justement pour s'affranchir des autres et être sûr de rester libre. Voilà, ça parle de ça et bon, on verra comment ça se passera. Donc ça c'est le gros projet de l'année. Et sinon, bah, j'ai à nouveau des one shot en cours chez Delcourt et ailleurs, je peux pas trop en parler, et j'ai évidemment une série, on va dire que c'est mon dernier gros projet avec des monstres et des épées. J'étais très frustré sur la licorne de pas avoir pu parler de dragons, et j'ai mis au point pareil toute ma version de l'écologie des dragons. J'en suis assez content, ça a bien accroché au niveau du scénario avec les éditeurs. C'est la première fois que sur un scénario j'arrive à accrocher autant de monde. Donc on fait des essais en ce moment, on est en train de monter le dossier avec un dessinateur et j'espère que ça va démarrer très vite. Et puis après, bah ouais, j'ai plein d'envies pour la fin de l'année, romans, courts-métrages et autres projets dont je peux vraiment pas parler. Voilà.